Bonsoir à tous. Merci d'être venus, malgré la chaleur de cette journée, venir accueillir avec nous Virginie Bouix pour la présentation de son deuxième livre, Ville chinoise. Virginie Bouix, bonsoir.
Bonsoir, merci de m'avoir invitée.
Ben, merci à vous d'être venue, surtout. Alors Virginie, vous êtes diplômée en droit de relations internationales et vous avez un certificat d'aptitude à la profession d'avocat, si Internet ne se trompe pas.
Oui, effectivement, ouais. C'est ce qui est indiqué. Ce qui signifie en fait que je suis avocate, mais n'étant pas inscrite au barreau actuellement, je n'ai pas le droit d'utiliser le titre. Voilà.
D'accord. Alors comment passe-t-on de presque avocat à écrivain ?
C'est une bonne question. Je ne sais pas. Il y a des avocats qui écrivent déjà, des juristes qui écrivent, on en connaît pas mal, mais je pense que c'est pas forcément incompatible. Alors je vais pas vous dire qu'en tant qu'avocat, on est amené à beaucoup écrire, parce que ce qu'on écrit généralement est très, très précis et parfois un petit peu ennuyeux, disons. Mais ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est les histoires qu'il y a derrière chacun des dossiers. Et je crois que c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc finalement, ce n'est pas du tout incompatible avec l'idée d'écrire ensuite des livres.
Oh non, de toute façon, il n'y a rien d'incompatible quand on a envie d'écrire. Mais il y a une... enfin, vous vous intéressez surtout à la nouvelle, puisque donc, dans votre premier livre, Les fleuristes, c'était déjà le cas. Et vous aviez écrit donc, des nouvelles, surtout qui se passaient en Russie, en Chine et en France. Mm-hmm. Donc déjà, pourquoi ces trois lieux ?
Alors, la Russie, c'est parce que j'y ai travaillé. J'avais fait du russe en première langue aussi, au collège et au lycée. La France, bah, tout simplement parce que c'est mon pays. Et la Chine, c'est parce qu'à l'époque, j'étais amenée, pour des raisons personnelles, disons, à y aller assez régulièrement. Et ensuite, j'y ai vécu, mais... Sinon, j'ai écrit ce livre au moment où j'étais, effectivement. Enfin, donc des pays qu'a priori je connais bien sans pouvoir prétendre vraiment les connaître, des pays dans lesquels j'ai vécu.
Et alors, donc là vous écrivez ville chinoise, pourquoi et pourquoi pas ville russe ?
Parce que au moment où j'ai eu l'idée de ce livre, j'étais encore en Chine, donc je baignais dans une atmosphère tout à fait chinoise. J'avais envie de ramener ramener du séjour que je faisais là-bas comme des images. Et finalement, ces nouvelles, ce sont comme des photos. Les villes qui sont décrites, ce sont des villes où je suis allée. D'ailleurs, aux périodes indiquées dans le livre, par exemple, si je prends la ville de Qingdao à Noël, j'étais à Qingdao à Noël et j'ai fait à peu près le trajet que fait le jeune homme dans l'histoire. En enlevant pas mal d'étapes que j'ai pu faire également. Mais, donc tous les lieux existent, sauf un qui est une université à Chengdu. Mais ayant pris des cours de chinois à l'université à Suzhou, la ville où j'habitais, j'ai plus ou moins une idée de ce que peut être une université chinoise et je ne la décris pas forcément de manière très, très explicite. Donc je n'ai pas trop de risque de me tromper sur l'université de Chengdu. Voilà. Mais c'est plus... oui, ce sont des lieux que j'ai aimés et dont j'avais envie de conserver le souvenir. Et c'est ce que j'ai mis à la fin de la page de remerciement. Cette fois-ci, j'en ai fait une parce que ça expliquait un petit peu pourquoi ce livre existe.
Donc vraiment, la Chine, c'est un pays qui vous enchante.
Oui, tout à fait.
Dans lequel, j'imagine, vous retournez encore.
J'ai pas encore eu l'occasion d'y retourner. Je suis rentrée en France cet été, donc c'est... Enfin oui, ça fait presque un an maintenant. Mais non, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y retourner, mais j'ai envie d'y retourner. Et j'ai aussi envie d'aller ailleurs en Asie.
Alors, pour revenir un petit peu donc, sur vos écrits, donc c'est le deuxième livre dans lequel vous écrivez des nouvelles. Qu'est-ce qui vous séduit tant dans la nouvelle ?
Je vais dire que c'est... sans doute pour moi plus facile à écrire que quelque chose de plus long, notamment pour des raisons de temps. J'ai d'autres choses en projet, évidemment, mais j'ai jamais le temps de les finaliser. Et ce livre-là, je l'ai écrit en même temps que j'en écrivais un autre qui n'est absolument pas fini et qui ne verra sans doute jamais le jour. Mais disons que c'était quelque chose que je faisais à côté, qui était plus facile à faire, plus facile. Disons pour moi plus facile, peut-être que ça correspond plus à mon caractère aussi, mais je ne désespère pas d'écrire des romans.
justement, est-ce que vous, enfin, donc vous vous imaginez un jour
Ah oui, vraiment... Enfin, j'espère y arriver. Ouais. C'est ensuite, on verra bien. Mais la nouvelle n'est pas un choix, ni, enfin, je vais pas revendiquer le fait d'être novelliste au lieu d'être romancière. C'est, j'ai commencé par écrire des nouvelles, enfin. J'ai toujours écrit plus ou moins des petites choses sans jamais les terminer. Et un jour, je me suis dit, puisque tu écris des trucs, tu devrais quand même essayer un jour de terminer ce que tu fais. Et donc, tu vas commencer par des nouvelles et ça sera un exercice. Et c'est comme ça que j'en suis venue là. Et finalement, ça a marché. Donc, voilà.
Donc, c'était parfait.
Donc, en fait, c'était une bonne idée, oui.
Donc, dans Vichinoise, vous y êtes allé dans toutes les villes que vous décrivez un petit peu dans Vichinoise. Est-ce qu'il y en a une, ville particulièrement qui vous a plu ?
Ah, toutes m'ont plu, même celles où je suis allée et qui ne sont pas décrites dans ce livre. Je ne sais pas, j'ai beaucoup aimé Pékin parce que j'y suis allée plusieurs fois et j'y ai passé beaucoup plus de temps. Suzhou, c'est la ville dans laquelle j'ai vécu pendant un bon bout de temps, même si ce qui arrive aux personnages dans l'histoire est un peu dramatique et ça ne décrit pas forcément l'ambiance qu'il peut y avoir dans cette ville qui est par ailleurs très agréable. Non, il n'y a pas de ville que j'ai préférée. Je suis allée à Harbin parce que j'étais intéressée par son passé russe. C'est une ville qui a été fondée par les Russes lors de la construction du Transmanchourien. Donc ça m'intéressait, ayant fait du russe, de lier la Chine et la Russie. De voir des bâtiments russes en pleine Chine, c'est assez amusant. Non, il n'y a pas de ville que j'ai préférée. Toutes m'ont plu. Toutes m'ont plu et je me suis vue vivre dans toutes, finalement. Il n'y a pas une ville qui m'a foncièrement déplu ou une que j'ai vraiment adorée. Au début, quand j'allais en Chine, j'allais souvent à Pékin. Et la première fois que je suis allée à Shanghai, je me suis dit « Ah, je préfère Pékin ». Et puis finalement, pour avoir vécu à Suzhou, qui est juste à côté de Shanghai, et être passée à Shanghai très régulièrement, je me suis dit « Mais Shanghai, c'est formidable aussi ». Donc, toutes ces villes sont différentes. Il y a une grande rivalité entre le nord et le sud en Chine. On pourrait vous parler de Bordeaux, Toulouse ou Paris et Bordeaux. C'est un peu ça. Mais disons que pour un étranger comme moi, tout est intéressant.
Alors il y a aussi donc autre chose intéressante dans Vichinoise. Donc c'est on l'évoquait tout à l'heure, une espèce de la notion de temps est très très importante. Donc c'est en écrivant ces nouvelles, vous avez retranscrit à peu près le moment et le lieu où vous étiez, ou est-ce que vraiment vous avez choisi un moment qui était important pour la ville dans laquelle dans laquelle se passait la nouvelle ?
C'était plutôt le moment, au moment où j'y étais, en fait. Parce que, au moins, j'ai toujours peur d'écrire des bêtises. Et c'est pour ça aussi que je rentre pas forcément trop dans la vie des Chinois, et surtout dans ce livre-là, parce que j'ai pas envie d'écrire des choses, et puis que les gens qui connaissent bien la Chine ou les Chinois eux-mêmes lisent ça et se disent « mais c'est complètement planté, c'est nul ». Ce qui m'arrive de temps en temps, en fait, en lisant des livres sur la Chine et sur la Russie, alors que je peux pas prétendre connaître ces pays. Les périodes temporelles, c'est celles où j'y étais, ce qui me permettait en écrivant, de retranscrire l'atmosphère telle qu'elle pouvait y être à ce moment-là, sachant qu'évidemment l'atmosphère des nouvelles est quand même un petit peu sombre et la plupart du temps je me suis bien amusée en allant visiter ces villes, donc c'est pas oui, non, ça correspond à ce que j'ai vu, disons. Et c'est le côté photographique de ce livre, en fait, et le côté personnel. Les histoires, elles, sont inventées, par contre.
Justement, j'allais y venir. Donc, la plupart des personnages ont, on va dire, un point commun, c'est qu'ils ne sont pas chinois. Mm-hmm. Est-ce que, a priori, non, ce n'est pas vos expériences à vous. Enfin, vous les avez inventées, mais est-ce que ce sont des choses que vous avez pu voir? Ou des questions que vous avez pu poser à des personnes qui se trouvaient en Chine à ce moment-là ?
Alors, il y a des scènes qui correspondent plus ou moins à des scènes que j'aurais pu vivre ou qui arrivent fréquemment. Par exemple, dans la nouvelle sur Nankin, il y a un jeune étudiant français qui est là depuis quelques mois. Il apprend le chinois à l'université. Ça fait 2 ans qu'il fait du chinois en France. Et en fait, il ne comprend pas grand-chose. Et ça peut correspondre plus ou moins à des camarades d'université. Donc j'ai pris des cours de chinois à l'université et j'avais avec moi des étudiants français qui étaient parfois au niveau licence. Et puis ils me disaient, moi, quand je suis arrivée, j'étais incapable de parler, etc. Et moi-même, en étant arrivée en Russie après avoir fait du russe et pendant donc, mes années de collège et lycée et avoir eu une grosse interruption pendant toutes mes années universitaires, finalement. Quand je suis arrivée en Russie pour y travailler, au début, je savais que je connaissais les mots, mais j'étais incapable de les utiliser. C'était pas évident. Puis ensuite, ça revient. Mais la langue chinoise est quand même quelque chose d'assez compliqué. Donc pas mal d'étudiants français que j'ai pu rencontrer avaient beaucoup de mal en arrivant en Chine et il leur fallait plusieurs mois pour se débrouiller. Et en l'occurrence, donc, ce pauvre jeune homme se retrouve à un moment dans une voiture. Il essaie d'expliquer qu'il veut aller dans une rue et puis il se trompe avec le nom de la rue. Il est incapable de prononcer le nom de la rue correctement. Donc le chauffeur pense à une autre rue, il l'amène à un autre endroit et puis finalement il ne trouve jamais le restaurant où il veut aller. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe quelle personne qui n'est pas chinoise, qui se retrouve en Chine dans un taxi et qui essaie de faire comprendre quelque chose. Le chauffeur se dit « Ah, ça y est, j'ai compris », il veut aider la personne qui est dans sa voiture, et puis finalement, il l'amène totalement à l'opposé, voire à l'autre bout de la ville. C'est des expériences dont j'ai entendu parler. Ça ne m'est pas arrivé personnellement d'arriver très très loin et de vraiment louper, de vraiment ne pas me retrouver à l'endroit où je voulais aller au bout du compte. Mais il m'est arrivé de faire des gros détours. Donc oui, ce sont des expériences assez qui peuvent être vécues ou inspirées d'eux. Comme toutes les histoires d'ailleurs qu'on peut raconter, on se base toujours sur une expérience personnelle ou sur des choses qu'on connaît, parce qu'il faut bien que ça vienne de quelque part.
Maintenant, vous maîtrisez bien le chinois, vous n'avez plus de problème.
Non, pas du tout. J'ai pas de problème pour me débrouiller dans la rue, a priori, mais j'ai un niveau qui est assez basique. Je peux suivre une conversation pas trop compliquée et commander à manger, prendre le taxi, acheter des billets d'avion et parler un peu de moi. Voilà, aborder des sujets un peu abstraits, mais dès que ça devient technique, c'est... Et puis en plus, en l'espace de 8-9 mois, j'ai énormément perdu.
C'est mon compte, on ne pratique pas.
Oui. Non, mais il faut des années pour... J'ai rencontré des avocats en Chine. Quelques-uns des avocats français qui sont en Chine parlent très bien chinois. Et eux-mêmes disaient qu'ils ne rédigeaient pas en chinois parce qu'ils ont trop peur de faire des erreurs.
Alors, est-ce que vous avez voulu transmettre un petit peu ce qu'on peut ressentir en tant qu'occidental lors d'un séjour prolongé là-bas?
Oui, mais je pense que c'est peut-être le thème principal du livre, en fait. Les expatriés et leurs difficultés, parce que les gens qui vivent à l'étranger sont souvent vus par ceux qui restent en France comme des gens qui ont énormément de chance et puis qui ont la belle vie. Déjà, d'un point de vue professionnel, ce n'est pas forcément le cas. On peut le voir dans pas mal de ces nouvelles où on se retrouve face à des personnages qui cherchent du travail. Certains travaillent de manière plus ou moins illégale. On fait plus ou moins allusion à des questions de visa dans la nouvelle sur Harbin, où il y a des Russes, on ne sait pas trop ce qu'ils fabriquent ici. Ils sont inscrits à l'université, mais ils ont l'air de jamais y aller. Donc, bon. Ou la nouvelle sur Hangzhou aussi. Mais... Donc il y a ces questions-là, et puis tout simplement, je ne sais pas si on peut parler d'acculturation, au moins le dépaysement, le terme est difficile à trouver, mais disons qu'après un séjour prolongé à l'étranger, on va avoir du mal à revenir en France. La France va nous paraître un peu étrange. Surtout pour, par exemple, le personnage de ma première nouvelle, je crois qu'il passe 6 ans en Chine et il revient en France. Il n'a jamais travaillé en France, il faut qu'il recommence tout à zéro et c'est particulier. Il était habitué à une routine chinoise. Disons que prendre le métro en Chine, ça ne lui posait pas de problème, mais prendre le métro à Paris, il n'a jamais fait ça, c'est pas normal pour lui. Donc c'est comme s'il débarquait dans un autre pays, alors que c'est son pays et c'est très douloureux. Et vous avez des gens qui n'arrivent pas à rentrer. C'est le cas notamment des personnages du livre. Donc un qui cherche du travail, qui n'arrive pas à trouver quoi que ce soit d'intéressant et puis qui accumule les petits boulots, mais qui a une 50aine d'années. Donc ça finit par devenir un peu difficile. Et un autre qui, au contraire, est directeur d'une filiale d'une grosse entreprise occidentale, a priori française, et qui, lui, fait tout ce qu'il peut pour rester en Asie, parce que ça fait une 20aine d'années qu'il y est, et parce que finalement, quand vous êtes à l'étranger, même quand vous n'avez pas une position de direction, vous allez avoir l'impression d'être quelqu'un. vous n'êtes pas perdu dans la masse. En Chine, alors moins à Shanghai ou à Pékin, mais dans les petites villes, vous traversez, vous n'êtes pas chinois, les gens vous regardent. Donc voilà. Et puis vous allez oser aller dans des grands hôtels ou des choses comme ça, chose que vous ne feriez pas en France, habillé de la manière dont vous êtes habillé ce jour-là ou autre. Et pour les gens qui font carrière à l'étranger et qui font carrière notamment en Chine, et je pense beaucoup à Shanghai parce qu'il y a... C'est effectivement une ville alors, bon, qui est très orientée vers le commerce, le business, l'argent, etc. Il y a énormément de possibilités pour les étrangers qui y sont et pour les Chinois aussi, même si certains n'y arrivent pas du tout. Et c'est une ville qui est très agréable à vivre si on aime sortir, aller au restaurant, etc. Ce qui est le cas du personnage qui est assez... certaines personnes que je connais m'ont dit mais il est absolument imbuvable. Non, il n'est pas vraiment imbuvable. Il est, par certains côtés, il est un petit peu pathétique peut-être, mais disons que c'est le roi d'un petit royaume. Disons que rentrer en France, même en ayant un poste de direction dans son entreprise française, si ça se trouve, il serait plus le roi de rien du tout. Donc voilà.
Et c'est justement donc un petit peu déconcertant puisque votre première nouvelle, donc. Je reviens un petit peu sur ce que vous disiez. On trouve donc Marc, ce personnage qui n'est pas en Chine, malgré ce que le titre pourrait dire, mais qui en revient et qui repense avec nostalgie quand même et sur de Pékin, donc de la ville où lui se trouvait. Est-ce que, vous ne parlez pas un petit peu de vous, est-ce que vous n'êtes pas nostalgique non plus de ce que vous avez pu vivre là-bas et de ce que vous aimeriez retrouver ?
Ah si, si, bien sûr. Mais alors, ce qui est curieux, c'est que cette nouvelle, en fait, je l'ai écrite alors que je n'étais pas encore rentrée. Mais l'expérience du retour, je l'avais déjà eue en rentrant de Russie. Et même bizarrement, j'étais allée en Chine assez rapidement après être rentrée de Russie. Et en Chine, je repensais à la Russie, ce qui était un peu curieux. Comme je regrettais des choses que j'avais pu voir à Moscou et je me disais à Moscou c'est quand même mieux et puis maintenant je me dis oh là là la Chine c'est quand même mieux et Moscou c'est mieux et puis et quand j'étais en Chine je trouvais que Paris c'était quand même beaucoup mieux par certains côtés et Bordeaux alors là encore mieux donc enfin bon finalement j'étais jamais contente d'être où que ce soit et je pense que c'est le problème de Marc mais beaucoup de mes amis qui sont rentrés de l'étranger m'ont dit que en lisant cette nouvelle ils avaient pleuré parce que ça leur rappelait ce qu'ils avaient vécu eux-mêmes et effectivement, c'est ce que j'ai voulu faire. Et on peut voir, et parfois c'est complètement incohérent, parce que, alors il trouve que les trottoirs à Paris sont très sales, et à côté de ça, il décrit les trottoirs en Chine, en parlant d'armées de balayeurs, etc. Mais d'un autre côté, il va décrire aussi une certaine saleté en Chine. Donc finalement, il s'y perd, quoi. Enfin, c'est pas forcément très cohérent. Je connais quelqu'un aussi qui... et puis tout ce qu'il va voir... va lui rappeler autre chose. Ce verre lui rappellera, je ne sais pas moi, un verre de whisky qu'il a bu dans un bar à Suzhou, dans un hôtel allemand, 4 étoiles, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Et la bouteille va lui rappeler une bouteille cassée qu'il a vue un jour en se baladant dans la campagne chinoise et en essayant de faire comprendre à la personne qui se trouvait là qu'il avait perdu son chemin. Il est là avec son sac à dos et voilà. Et une simple bouteille peut vous ramener à beaucoup de choses. Et j'ai même une amie qui me disait, alors elle est étrangère, enfin elle n'est pas française disons, et quand elle était rentrée dans son pays, elle me disait que dès qu'elle voyait quelque chose d'un peu haut, elle pensait à la Tour Eiffel, parce qu'elle habitait dans une chambre de bonne juste en face de la Tour Eiffel, donc elle avait une vue imprenable, et tout ce qu'elle voyait qui pouvait vaguement avoir la forme de la Tour Eiffel était une Tour Eiffel pour elle. Et elle avait beaucoup de mal, parce que ça la rendait très triste.
Donc pour vous, c'est peut-être un petit peu difficile de vous poser quelque part sans penser à... un ailleurs ?
Oui et non, en fait. Enfin, c'est assez particulier. En l'occurrence, je pense que j'ai besoin de voyager, mais pas seulement en tant que touriste. Donc, effectivement, ça implique de repartir pour travailler à un endroit donné, essayer de vraiment s'intégrer, si tant est que ça soit possible. Et en même temps, contrairement à d'autres personnes... Je ne vais pas du tout essayer de renier le fait que je suis française ou autre. Au contraire, j'en suis absolument fière. Et on peut voir à l'étranger pas mal de gens qui vous disent « Oh là là, en France, c'est horrible. » C'est ce que dit d'ailleurs le PDG dans la nouvelle sur Shanghai. « En France, c'est pas possible. Quel marasme. Ils sont tous malades. Ils comprennent rien. C'est affreux. Il y a des grèves. » Bon, ça, c'est ce qu'on vous sort tout le temps. J'ai pris le train. J'ai réussi à venir, hein, quand même. Donc, tout va bien. Mais voilà, enfin, je pense que j'ai besoin d'avoir... Enfin, je m'attache beaucoup aux lieux, plus qu'aux objets. Et c'est presque douloureux de partir d'un endroit et de s'imaginer que cet endroit continue à vivre sans moi, que des gens vont le découvrir. Et c'est le cas de Marc dans la nouvelle sur Pékin, la première nouvelle, effectivement, où il dit à un moment, où, enfin il pense, aux gens qui sont restés et qui l'envient parce qu'ils sont restés, même si leur situation, ils ne l'auraient peut-être pas supporté. Mais, et il pense aussi à tous ces gens qui vont partir dans ce pays et qui vont le découvrir, alors que pour lui, c'est déjà passé. Et d'une certaine manière, il trouve ça injuste. Mais en même temps, s'il est rentré en France, c'est pour faire carrière, pour rentrer, pour ensuite peut-être repartir, mais pour donner comment dire, un sens à sa vie, du moins à sa vie professionnelle. Et pas se retrouver plus tard, par exemple, dans la situation du personnage qui est à Chengdu et qui, lui, a perdu son travail, mais reste envers et contre tout. Donc, oui, non, j'ai sans doute besoin de partir, mais enfin, à côté de ça, j'ai beaucoup d'amis qui voyagent énormément et beaucoup plus que moi, donc je ne vais pas pouvoir... Oui, enfin, j'ai pas l'impression d'en être à ce point-là, disons. Voilà, c'est... Mais effectivement, oui, si j'ai l'occasion de repartir, je repartirai avec grand plaisir. Tout en revenant régulièrement en France pour pas me... Pas parce que j'en ai besoin, mais plus pour ne pas justement être dans la situation où je ne pourrais pas rester. Un jour, je suis repassée à Paris et c'était assez curieux. Je regardais... J'étais arrivée très très tôt le matin et je prenais un café dans un café qui était ouvert vers 7h après avoir pris l'avion depuis la Chine. Et je regardais les voitures passer et je me suis dit, c'est bizarre, je me sens à l'étranger, ça commence à devenir dangereux. Et y a des gens, en fait, qui ne luttent pas contre ça et qui, du coup, se trouvent pris au piège.
Oui, voilà. Donc, situation assez difficile.
Oui, c'est une situation assez difficile, en fait. C'est pas forcément... Et puis, quand on part, on peut avoir des difficultés. C'est pas forcément la belle vie. C'est effectivement un peu comme des vacances permanentes, parce que tout est nouveau. Même la routine, même ce qui devient la routine, malgré tout, reste différent. Et puis, on en apprend tous les jours, c'est formidable. Mais à côté de ça, il y a des difficultés qui sont d'ailleurs parfois les difficultés de tous les jours. Dans la nouvelle sur Qingdao, le personnage a des problèmes de travail, ça pourrait se passer n'importe où ailleurs. Pareil dans la nouvelle sur Suzhou. Donc, voilà.
Alors justement, parlons. Alors je vais écorcher hein, les noms des villes. Vous me prenez le Qingdao.
Qingdao.
Qingdao. Donc on fait la rencontre de Benoît et donc il s'agit de travail. Est-ce que vous voulez justement qu'on lise un petit passage de cette nouvelle pour découvrir un petit peu le livre et puis le. Alors. Je ne sais. C'était 56, 59. Voilà.
D'accord. Si bon. Alors. Benoît était monté tout en haut de la colline du parc de Xinhaoshan, là où des tours aux allures de champignons dominent la ville et la baie de Qingdao. Il faisait très froid, il y avait même un peu de neige, et son manteau fourré et son bonnet de ski, qu'il détestait mais qu'il avait bien été obligé d'enfiler, ne suffisaient pas à le réchauffer. Il entra dans l'observatoire panoramique pour s'abriter un instant et profiter de la vue. Il y avait du monde. Un groupe très bruyant, avec deux enfants qui s'amusaient à courir dans le sens contraire au mouvement rotatif de la cabine. Benoît s'assit dans un fauteuil en rotin et regarda la ville à travers la vitre teintée et un peu sale. C'était le matin et il faisait très beau. Une douce lumière habillait les immeubles de style européen et les clochers des églises. Il voulut ouvrir son guide pour identifier les bâtiments qui défilaient lentement sous ses yeux, mais ne le retrouva pas. Il était pourtant convaincu qu'il l'avait sur lui. Il avait dû l'oublier à l'hôtel. Par chance, il avait un plan dans sa poche. Et d'ailleurs, il n'en avait pas besoin. Il reconnaissait déjà la brasserie Tsingtao, énorme verrue colorée à l'intérieur des terres, malheureusement fermée ces jours-ci, lui avait-on dit, et la résidence de l'ancien gouverneur allemand, perdue dans la végétation du parc. Ou encore le clocher vermousse de l'église protestante, une belle église toute simple qu'il était allé voir la veille, et à la sortie de laquelle un homme voûté d'une incroyable maigreur l'avait poursuivi pour lui donner les horaires de la messe de Noël. Au-delà, l'église catholique Saint-Michaël, imposante. Et enfin, le pavillon sur la jetée, le phare un peu plus à gauche et les bateaux qui se détachaient en ombre chinoise sur l'eau argentée. Il était en Chine depuis des années et ce coin d'Europe lui faisait du bien. L'architecture des bâtiments, l'agencement des rues et des trottoirs, les gens même, différents. Mais ce matin, il avait du mal à faire abstraction du groupe de touristes chinois à côté de lui. Le gamin en pantalon fendu à l'entrejambe, les fesses à l'air, qui courait après un autre à peine plus âgé. Et les parents, oncles, tantes, grands-parents, qui jetaient par terre les écorces des graines de tournesol achetées à la boutique de l'observatoire panoramique en se raclant bruyamment le fond de la gorge. Il attendit tout de même que la cabine ait effectué un tour complet avant de se lever pour sortir. Dans ce passage, en fait, je me rends compte que c'est assez stéréotypé, finalement, parce que c'est des scènes qu'on peut voir. Les enfants qui ont un pantalon qui est fendu par derrière, parce que, alors, parfois avec une couche, d'ailleurs, donc c'est un peu bizarre d'utiliser ce type de pantalon si ça sert à rien. Et puis les gens qui jettent des écorces de cacahuètes, de graines de tournesol, des pipas, comme on appelait au collège. Ce qu'on voit en Russie, d'ailleurs, aussi, ils aiment bien ça. Et en fait, on voit déjà que le personnage est étranger et que même s'il dit que ça fait des années qu'il est là, finalement, il restera toujours étranger.
Oui, effectivement, bon, on peut se dire que c'est un peu normal, sauf...
c'est assez normal, en fait, mais je pense, dans n'importe quel pays. Mais peut-être dans des pays effectivement assez différents, comme la Chine ou des pays du Moyen-Orient, ça va être un peu plus, peut-être un peu plus marqué. Mais le livre n'est pas un livre sur la Chine, c'est un livre sur les étrangers en Chine, donc c'est plutôt logique, en fait.
Mais ce personnage, justement, donc ce Benoît, en fait, a une chance donc dans cette nouvelle, c'est que on lui a accordé une journée parce que c'est Noël.
Oui, il a eu de la chance. Oui, mais alors en l'occurrence, en fait, ce n'est pas lié à un mode de fonctionnement chinois. Là, c'est clairement une entreprise française qui, en fait, est l'entreprise où travaille ce PDG dans la nouvelle de Shanghai. Si on lit bien le livre, on peut se rendre compte qu'il y a des liens. Et lui, donc le PDG est un peu particulier. Et lui, par contre, est complètement dans le rythme chinois, donc il va pas forcément comprendre que un de ses employés français, qui n'a pas de famille française en Chine, ait envie d'avoir une journée à Noël ou tout simplement d'avoir une journée de vacances à un moment donné. Mais ça, je pense que ça peut être le cas dans certains bureaux. J'ai des amis en France qui sont dans cette situation, malheureusement. Et pourtant, Noël en France, c'est censé être Noël, donc voilà. Donc c'est pas forcément lié à la Chine, là.
Non, effectivement, mais je me demandais qu'est-ce qu'on ressent en tant qu'occidental quand arrivent les fêtes de Noël et que on se dit qu'on va pas pouvoir les fêter.
Généralement, on trouve un moyen de les fêter avec d'autres occidentales, voire avec des Chinois qui trouvent ça assez amusant de fêter un Noël occidental. Il y a en Chine au moment de Noël des décorations, etc., mais c'est pas une tradition évidemment chinoise, mais c'est plutôt pour parce que c'est un peu à la mode, c'est amusant. Il y a des sapins de Noël dans les centres commerciaux, des choses comme ça. On entend des chansons de Noël américaines qui passent, voilà. Mais c'est pas Noël comme on le fêterait en France. Et puis il y a ce problème de fêter Noël loin de sa famille, ce qui est pas forcément quelque chose de très agréable. Mais généralement, la plupart des gens qui peuvent fêter Noël en Chine vont se débrouiller pour, ou à l'étranger, ou dans n'importe quel autre pays où Noël n'est pas une institution, vont se débrouiller pour profiter, effectivement prendre quelques jours de congé et puis en profiter pour aller ailleurs. Et là, en l'occurrence, Benoît va à Qingdao et finalement, il se trouve qu'il y a une église occidentale, il y a une messe de Noël, donc... Ça le ramène à ses racines et je sais pas si c'était voulu en fait au départ, pourquoi il y allait, bonne question, mais en l'occurrence il en est content.
Alors on sent aussi chez lui une espèce de stress assez récurrent par rapport à son travail.
Oui, il est très stressé, oui, effectivement.
Est-ce que, enfin, c'est, alors, pas forcément pour les occidentales, mais est-ce qu'il y a, enfin, comment vous percevez le travail en Chine? Est-ce que c'est, enfin, plus qu'en France, une notion de stress ou pas?
Alors, je suis pas vraiment très bien placée pour en parler parce que j'ai pas vraiment travaillé en Chine, en fait. J'ai fait beaucoup de choses, mais pas de manière je n'ai pas travaillé en cabinet d'avocat en Chine, voilà, donc je ne peux pas exactement savoir. Ce que je peux voir, c'est ce que faisaient la plupart de mes amis, et la plupart étant étrangers, enfin je parle de mes amis occidentaux, la plupart travaillaient dans des entreprises occidentales, où finalement le rythme de travail était à peu près comme il l'aurait été chez eux. Par contre, c'est plus difficile ensuite dans les relations de travail avec les Chinois, y a des choses qui sont très différentes. Donc il y a des incompréhensions, mais comme dans n'importe quelle relation interculturelle. J'ai pas d'exemple précis à vous donner. Je connais des avocats qui m'ont raconté pas mal d'anecdotes assez amusantes, mais je sais pas si ça peut refléter quelque chose qui pourrait être prise comme une vérité et qui vaudrait le coup d'être indiqué.
Est-ce que vous savez s'il y a comment ça se passe avec la hiérarchie là-bas? Est-ce qu'on rencontre donc un personnage qui s'appelle Bernard d'Ambert, qui a l'air un petit peu tyrannique quand même.
Je pense qu'il est assez tyrannique, oui. Ouais.
Est-ce que c'est une vision comme ça du patron occidental en Chine ?
Le patron occidental en Chine, alors bon, Bernard d'Ambert, il est peut-être un petit peu dépassé, je dirais, parce que c'est un peu ce qu'on peut imaginer du patron occidental qui est arrivé il y a une dizaine d'années, à un moment où il avait vraiment l'impression que sa présence était quelque chose d'extraordinaire qui allait aider le pays à s'en sortir, alors qu'en fait, ce n'est absolument pas le cas. C'est plutôt l'inverse. Donc, mais cela dit, lui est persuadé je pense que ce qui lui pose le plus de problèmes, c'est les relations avec sa hiérarchie en France. En fait, on a l'impression qu'il en est un peu coupé, parce que lui s'estime très important. À un moment, il le dit, ils comprennent pas l'importance que j'ai au sein du groupe, l'importance qu'a la Chine dans notre projet, etc. Et pour l'entreprise. Et puis finalement, le fait qu'ils le disent comme ça, on peut se permettre d'en douter. Peut-être que son entreprise va se développer ailleurs mais effectivement, il est quand même un petit peu l'archétype de l'occidental qui arrive. Alors il parle pas chinois, il a une épouse chinoise, mais en même temps il est pas très intégré quand même. Il a une belle famille chinoise, etc. Il mange dans des restaurants chinois, bon voilà. Mais à côté de ça, il court les clubs le soir avec ses amis qui ont l'air aussi, un petit peu pareil que lui. Donc il arrive un petit peu avec une mentalité de conquérant, et puis c'est un petit peu une allégorie, mais les relations qu'il a avec sa femme montrent que c'est pas forcément lui le conquérant au bout du compte. Donc est-ce que c'est pareil avec le pays? Peut-être. Est-ce qu'il faut y voir un sens? Oui, peut-être.
Alors, si on s'éloigne un petit peu de la hiérarchie, il y a encore une autre nouvelle qui se passe à Suzhou. Voilà. avec un employé qui s'appelle Bruno, et donc lui qui vit quelque chose quand même d'assez assez désastreux, puisqu'il est complètement isolé de ses autres collègues, et qui passe beaucoup de temps sur son ordinateur à regarder où en est les taux de mortalité dus à la grippe aviaire ou à la grippe porcine.
Alors ça, en fait, bon, c'est la période qui est décrite dans ce livre. Alors je sais plus si ça commence un lundi ou faudrait que je... Ah ben tiens, ça tombe là, ça commence un lundi. Je ne sais plus les dates exactes, mais c'était effectivement en avril 2013. Il y a eu à un moment... une combinaison de facteurs qui était quand même assez désagréable pour quelqu'un qui, comme Bruno, débarquait. Alors, la grippe aviaire qui, tout d'un coup, arrive, et bizarrement, dans la province du Jiangsu, dont fait partie Suzhou, ça commence, c'est l'épicentre. À côté de ça, quelques semaines avant, il y a eu cette histoire dont on a parlé dans les journaux de porcs qui flottaient dans la rivière à Shanghai, ce qui était un petit peu particulier aussi. Donc certaines personnes se disaient « je vais arrêter de manger du porc », et puis après il y a la grippe aviaire, donc ils arrêtent de manger du poulet. Donc ensuite ils commencent à penser aux pesticides qu'on doit mettre sur les légumes, et alors là c'est fini. Ça commence comme ça. Et effectivement, à ce moment-là, et c'est vraiment ce qui s'est passé, j'ai même fait... en écrivant la nouvelle, je suis allée sur Internet, j'ai regardé aux dates précises quel était le taux de mortalité ce jour-là, etc. Et en même temps, donc, la Corée du Nord qui menaçait d'envoyer des missiles, donc Bruno qui se pose la question, mais si jamais ils envoient le missile dans le mauvais sens et que ça nous tombe dessus, qu'est-ce qu'on devient ? Et Fukushima qui se remet à fuir. Et alors effectivement, après, ça, la nouvelle est terminée à ce moment-là, mais quelques semaines après, il y a un tremblement de terre dans le Sichuan. Donc, bon, il se retrouve, ça fait quelques mois qu'il est dans cette ville, il est mis à l'écart, on ne sait pas trop pourquoi, lui-même ne le sait pas, donc il se pose quand même des questions. Il n'a pas vraiment de rapport avec ses collègues occidentaux et il n'en a pas non plus avec des Chinois, sauf avec une femme de ménage qui passe de temps en temps devant son bureau et qui lui fait des sourires parce qu'ils ne peuvent pas se parler. Et puis il a une prof de chinois aussi. Il y a un moment, il déjeune avec des collègues, mais c'est pas très très concluant parce que en fait, il fait pas vraiment d'efforts non plus, donc il sait pas trop parler. Et une fois qu'il a épuisé son registre lexical, disons, il est un peu perdu. Et en même temps, donc déjà, il doit commencer à se dire, mais qu'est-ce que je fais là ? Surtout qu'il est venu en Chine a priori pour changer de vie. Et il était censé se retrouver dans une ville formidable, touristique, avec des canaux, des jardins, etc. Et puis il se retrouve dans cette ville, effectivement, mais à un endroit qui n'est pas du tout le centre-ville, complètement à l'extérieur, et puis dont il a la flemme de partir, parce qu'il est pas court, enfin, il est peut-être un peu paresseux. Et donc, bon, au bout d'un moment, il s'ennuie. Et il est mis à l'écart de son boulot, et à ce moment-là, commence à se déchaîner tous ces événements qui ont l'air de le chasser du pays. Il finit par donner sa démission. Alors, est-ce qu'il va partir ailleurs en Chine ou est-ce qu'il va rentrer en France parce que finalement, il n'a pas pu supporter la situation et voilà. Sachant qu'on comprend qu'il est dans une entreprise occidentale et que donc ses problèmes ne sont absolument pas dus à des relations de travail conflictuelles avec des Chinois, mais plutôt avec des Français. Bon. Je ne sais pas ce qu'il advient de lui. Dans mon esprit, il continue en Chine. Il essaie d'aller ailleurs.
D'accord.
Oui, quand même. Oui, parce que c'est partir sur un échec, sinon c'est dommage.
Est-ce qu'il est dit à un moment, donc, surtout en parlant de Fukushima, les autorités demandent aux résidents étrangers de retourner chez eux, en fait. Donc, c'est rigolo de se dire qu'il continue à aller en Chine malgré cette alerte, mais
alors,
cette recommandation.
En l'occurrence, en fait, Fukushima avait, l'accident de Fukushima a eu lieu un an plus tôt, et là, ouais. C'était des retombées. Mais effectivement, c'était assez curieux la situation pendant, le problème de Fukushima en 2012.
C'était 2012.
Il y avait assez peu d'informations en fait qui étaient données aux étrangers, notamment par les institutions, etc. Il y avait des bulletins réguliers de suivi, mais les gens ne savaient pas forcément quoi faire. Surtout qu'étant en Chine, ils n'étaient pas au Japon, donc ils étaient a priori moins exposés, mais malgré tout, certaines personnes se posaient des questions. C'est évident. Et on a vu à un moment, je me souviens d'avoir été à Shanghai un jour, et j'avais pris un journal à l'endroit où j'étais, qui était, le Shanghai Daily ou quelque chose comme ça, un journal en anglais, et puis il y avait un gros titre, la radioactivité arrive à Shanghai. Donc on savait très bien qu'il se passait des choses. Il y a des gens qui... effectivement, dans la nouvelle sur Suzhou, ils parlent d'un couple d'amis qui étaient bloqués à Suzhou, peut-être un peu isolés aussi, et qui regardaient les prix des billets d'avion en se demandant ce qu'ils allaient faire, parce qu'en fait, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Mais c'est des situations qu'on peut vivre un peu partout. J'étais en Russie en août 2010, à un moment où, à Moscou, il y avait de la fumée partout dans la ville. C'était absolument épouvantable. Et effectivement, la question que se posaient les gens et même les Russes, c'est que faire. Et j'ai des collègues russes qui sont partis en Tunisie, parce que tout d'un coup, il y avait des promos sur les vacances en Tunisie. Ils sont tous partis en Tunisie, juste pour fuir. Et j'ai des amis qui ont pris leur voiture et qui sont allés voir de la famille à un autre endroit où il n'y avait pas de feu. Puis après, les feux ont commencé à arriver là où ils étaient. Donc ils sont repartis ailleurs. Ils ont fait un périple comme ça, en prenant des jours de congé. Voilà, c'est. Mais lui, en l'occurrence, étant étranger, n'ayant aucun lien particulier avec ce pays, et puis se trouvant dans une situation professionnelle absolument désastreuse, il doit avoir l'impression un petit peu que tous ces événements essaient de le virer, ce qui est sans doute pas agréable du tout.
C'est sûr. Donc vous n'y étiez pas à ce moment-là.
Si j'étais j'étais en Chine à ce moment-là, si justement. Et j'étais d'ailleurs à Suzhou.
D'accord.
Mais ça allait beaucoup mieux. Hein. Oui. Vous inquiétez pas, non. Oui, voilà. Ce n'est pas moi du tout, absolument pas.
Oui, vous n'avez pas eu la tentation de revenir à cause de...
À cause de la grippe aviaire ou des porcs, non. Non, pas du tout. Non. Je dirais que ce n'était pas forcément agréable et qu'on se renseignait, évidemment. Et d'ailleurs, tous nos amis, tant occidentaux que chinois, se renseignaient sur la question, mais... Non.
Oui.
Voilà, mais Bruno, lui, est effectivement dans une situation qui est beaucoup plus complexe.
Alors, en reparlant de complexité, justement, tout à l'heure, on abordait un jeune homme qui se perdait en taxi à cause d'un problème de langage, mm-hmm. surtout. Et vous, c'est assez drôle parce que vous décrivez, dans cette nouvelle, vous décrivez un petit peu la particularité des taxis en Chine, qui est, mm-hmm. c'est assez rigolo. Est-ce que vous pouvez nous en parler, justement ?
Alors, les taxis, vous voulez parler de la lumière ? Ça, c'est spécial. Alors, je ne sais pas si c'est dans toutes les villes, mais à Nankin, effectivement, donc lui, ce personnage est un peu embêté parce que donc il a rendez-vous avec des amis le soir. Il est à Nankin, il ne connaît pas la ville, il décide de se promener. C'est le nouvel an occidental, donc il va aller voir le mausolée de Sun Yat-sen, qui est un endroit touristique très connu à Nankin, et l'endroit où il faut aller. Et puis, il y a pas mal de monde. Donc, quand il veut rentrer, déjà, il attend un taxi. Et puis, il se rend compte que, sur tous les taxis, il y a des lumières vertes, ce qui est le cas, sans doute, dans la ville où il habite. A priori, ça doit être Shanghai. Et bizarrement, ces taxis sont tous pleins. Donc, il comprend pas. Et puis, finalement, il se rend compte que, quand les taxis ont une lumière rouge, ils sont vides. Mais quand ils sont verts, ils sont pleins. Alors du coup, il commence à se poser des questions. Il se demande si c'est pas lié à la révolution culturelle. Enfin, comme tous les étrangers, il essaie de trouver des tas d'explications. Et ça, c'est des histoires qu'on a pu me raconter et que j'ai mises dans le livre. Il y a un jour, quelqu'un qui m'a dit que... Et j'ai jamais su si c'était une blague ou pas. Et lui-même ne sait pas, d'ailleurs, parce que si quelqu'un peut me le dire, ça serait gentil. On lui avait dit qu'à un moment... pendant la révolution culturelle, il fallait que les voitures passent au rouge et s'arrêtent au vert. Alors je ne sais pas si c'est vrai. Et donc du coup, comme il ne comprend pas pourquoi les taxis à Nankin sont verts quand ils sont pleins et rouges quand ils sont vides, il s'imagine que c'est lié à ça. Mais en même temps, il se souvient qu'une amie lui a raconté des histoires sur des taxis et qu'avant, les taxis vides avaient des petits cartons rouges et que donc c'est le carton rouge qui... Bon. Et ça, c'est ce qu'une amie m'a raconté aussi en m'expliquant. Elle est de Nankin. Alors je ne sais pas, peut-être qu'elle se trompe aussi. Mais elle me disait, non, les taxis à Nankin sont rouges quand ils sont vides parce que avant, pour indiquer qu'ils étaient vides, avant qu'il y ait les petites lumières électriques, on mettait un petit carton rouge sur le pare-brise ou devant, et donc c'est comme ça qu'on voyait qu'ils étaient vides. Et puis certaines villes, dont Nankin, auraient conservé l'habitude de la couleur rouge pour dire que le taxi est vide. Je sais pas trop si la réponse est exacte ou pas. Donc j'ai une amie qui est de Nankin qui m'a dit que c'était ça, voilà. Mais effectivement, j'avais pas mal d'amis qui sont rentrés après des séjours à Nankin et qui me disaient c'est très bizarre parce que tu comprends les taxis là-bas, ils sont verts quand ils sont pleins, etc. J'ai pu moi-même constater, je faisais ça pour des taxis verts et puis bizarrement ils s'arrêtaient pas et les taxis rouges s'arrêtaient, je comprenais pas. Donc à la fin je levais le bras pour tous les taxis et puis il y en avait bien un qui s'arrêtait à un moment. Et avant de comprendre quand même, j'ai mis du temps avant de réaliser que c'était juste qu'il fallait inverser les choses. Le personnage est déjà complètement perdu avec ça. Et puis ensuite, il veut aller dans une rue qui se trouve malheureusement avoir un nom très proche de celui d'une autre rue. Et il prononce sans les intonations parce qu'il ne sait pas trop quelle intonation donner. Donc du coup, le taxi se trompe de rue. Enfin, pense qu'il veut aller dans telle rue, et puis lui, il dit non, c'est pas ça, c'est l'autre, parce qu'il lui donne un nom un peu plus long, alors qu'en fait, c'était la bonne rue, peut-être, et encore, quand il finit par y arriver, il trouve pas le restaurant qu'il cherchait, donc finalement, on sait pas, mais voilà, donc il se retrouve avec un taxi qui, comme beaucoup de taxis en Chine, est très très sympa, et c'est vraiment de l'aider, mais finalement, ça marche pas, voilà, et il n'y arrive pas. Personnellement, je suis toujours arrivée où je voulais, même après des problèmes, un endroit qui avait pu déménager ou autre. Et effectivement, il y a quelque chose qui se fait assez fréquemment là-bas, c'est quand il ne sait pas, il appelle l'endroit où il veut aller, il donne le téléphone au taxi, il discute. Les étrangers font beaucoup ça, comme ça, ils sont guidés, c'est beaucoup plus facile.
Au moins, vous, vous avez eu de la chance.
Oui, non, moi, j'ai eu de la chance, c'est bon, j'ai pas... Mais je connais quelqu'un qui, effectivement, s'est retrouvé à l'autre bout d'une ville, ne sachant pas comment rentrer, ne sachant même pas où il voulait rentrer, parce qu'il savait pas le nom de l'endroit d'où il était parti. Et bon, ça a été un peu compliqué. Il a fini par appeler des Français parlant chinois qui ont pu expliquer au chauffeur de taxi... Enfin, comprendre déjà où il était et expliquer où il fallait l'amener, voir comment y aller, parce que le pauvre chauffeur de taxi qui s'était retrouvé là ne savait pas du tout.
Alors, je vais passer vraiment, vraiment du coq à l'âne. Dans une autre de vos nouvelles, donc, qui se passe à Arbia, c'est ça ?
Harbin ?
Harbin, voilà. D'accord, je l'ai mal noté. Donc, il est question de la fête des morts. Mm-hmm. Est-ce que vous avez participé, est-ce que vous avez célébré ce jour ?
Non. Alors c'est un jour férié en Chine. Il y a tout un aspect traditionnel qui est décrit un petit peu dans la nouvelle sans rentrer dans les détails. On va brûler du papier monnaie pour les morts dans l'au-delà, etc. On va nettoyer les tombes. Bon, j'ai jamais participé à ce genre de choses. J'ai des amis chinois qui le faisaient. Mais personne ne m'a jamais proposé d'y participer. Et je ne sais pas si ça serait même bien vu d'inviter quelqu'un d'extérieur à la famille, à honorer... J'en ai aucune idée, mais disons que personnellement, moi, avec ma vision des choses, je trouve pas que... À la Toussaint, vous n'invitez pas les gens que vous connaissez à aller sur la tombe de vos grands-parents. Non, je n'ai pas participé malheureusement à ça. J'ai assisté à des choses comme des mariages, ou enfin plutôt des fêtes de mariage, mais pas des cérémonies de ce type. Par contre, j'ai vu des gens acheter du papier monnaie, j'ai vu des reportages, enfin bon, bref, j'ai vu un petit peu de très loin, mais sans y participer moi-même.
Par contre, alors, donc, est-ce que vous vous êtes rendu donc au fameux port Arthur, qui lui a été longtemps interdit
Oui, je suis allée à port Arthur. Alors, port Arthur, en fait, donc le port est juste à côté de la ville de Dalian. Ça s'appelle maintenant en chinois Lushunko. Et c'est c'est un endroit qui a été interdit aux étrangers pendant un bout de temps. Je crois que les Russes pouvaient y aller. Et puis les étrangers, je pense jusqu'en 2005 ou quelque chose comme ça, les autres étrangers n'avaient pas le droit d'y aller parce que c'est un endroit militaire. Maintenant, il y a pas mal de touristes qui se baladent. C'est assez joli d'ailleurs. Il y a des vieilles maisons, parfois avec un côté un petit peu russe. C'est assez marrant. Des izbas, mais il y a quelque chose qui rappelle la Russie. Et puis il y a plusieurs. Il y a des musées. Bon, il y a pas mal de monuments qui célèbrent tout ce qui s'est passé là-bas. Mais c'est assez intéressant, effectivement, d'aller là-bas. Et puis le site est très, très beau.
D'accord. Alors, la dernière nouvelle donc, qui se passe à Sanya.
Sanya, oui. Alors là, pas de problème.
Super. Sanya donc, parle surtout d'un couple qui se redécouvre un petit peu. Donc, est-ce que vous pensez que Sanya ou la Chine en général est l'endroit idéal pour refaire sa vie ou la recommencer ou je ne sais pas.
Alors Sanya, en fait, c'est particulier parce que j'y suis allée et beaucoup de gens m'avaient dit « Oh là là, il vaut mieux que tu ailles en Thaïlande ou ailleurs, etc. Les plages sont plus jolies, il y a moins de touristes, c'est plus ci, c'est plus ça. » Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa. L'île de Hainan en général, en fait, enfin, ce que j'en ai vu parce que je n'y suis pas restée longtemps. Bon, ce couple, effectivement, ce sont des gens qui sont déjà bien avancés dans la vie. Hein. Alors, lui est professeur à l'université. Elle, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Elle travaille, c'est certain. Elle l'accompagne en mission à Shanghai. Et puis, ils ont quelques jours. C'est aux alentours des fêtes de Noël et du premier de l'an. Et donc, du coup, ils décident d'aller à Sanya parce qu'on leur en a parlé. Donc, quelqu'un les aide à réserver un hôtel, etc. En fait, l'endroit où ils se retrouvent, c'est l'endroit où je me suis retrouvée moi à Sanya, qui est un petit peu en dehors de la ville et qui, du moins à l'époque, était assez préservé. Il y avait un hôtel qui était un hôtel, ce qu'on appelle les hôtels des hôtes d'État en Chine, les Guobingguan. Je sais pas si je prononce bien, mais bref, les hôtels où il y a pas mal d'officiels qui logent et en même temps qui sont ouverts à d'autres clients. Et généralement, ce sont des hôtels qui sont vraiment très bien. Et donc là, ils se retrouvent dans ce cadre-là, avec un hôtel qui est pratiquement le seul de la côte. C'est plutôt désert, il y a pas de, y a des chantiers autour, donc on se dit qu'effectivement, il va y avoir quelque chose qui va se construire parce que les plages sont très belles et que ça sera exploité. Mais ils arrivent à un moment où c'est encore préservé de l'urbanisation, enfin, du moins d'une certaine forme d'urbanisation. Et voilà, et ça les fait réfléchir à pas mal de choses, certainement. Et puis ils ont l'impression d'être moins touristes qu'ils ne peuvent l'être ailleurs, tout simplement parce qu'ils y sont allés dans un contexte de travail, ce qui change assez souvent les choses. Et puis on les a aidés à réserver un hôtel, etc. Et eux-mêmes décident à un moment de changer d'hôtel, ils le font tout seuls, il n'y a pas trop de difficultés. Donc bon. Est-ce que la Chine est un bon endroit pour refaire sa vie? Alors en fait, je pense que n'importe quel pays est un bon endroit pour refaire sa vie si on a besoin de faire une coupure avec le pays d'où l'on vient. Il y a en Chine des choses qui sont difficiles. Bon, il y a le problème de la pollution, notamment, qui en ce moment pousse beaucoup de gens, des gens qui y sont, à y rentrer. Et je sais que les gens qu'on pressent pour partir, pour prendre des postes, par exemple à Pékin ou ailleurs, rechignent et que ça devient de plus en plus difficile pour les gens enfin pour les entreprises qui sont implantées en Chine de faire venir des gens, parce que ce problème de pollution est très très médiatisé aussi. Et effectivement, c'est quelque chose qui est pas agréable à vivre et qui, mais bon, malheureusement, je sais pas trop ce qu'on peut y faire. Mais en tout cas, alors tout le livre en fait peut donner une vision assez mitigée. C'est plutôt les situations des personnages en fait qui sont pas très agréables dans le livre, plus que le pays lui-même. Et la dernière nouvelle, qui fait un petit peu écho à la première en fait, on part d'un retour à un départ, donne une note plus positive sur pas spécialement là encore sur le pays. Donc, je pense pas que le livre donne une mauvaise image du pays, et si c'est le cas, bah c'est dommage parce que c'est pas ce que je voulais faire. Mais effectivement, ça donne l'impression que on peut recommencer quelque part. Ça pourrait être le cas partout ailleurs, mais enfin personnellement, vivre en Chine a été une expérience extraordinaire et c'est quelque chose dont je suis vraiment, enfin que je suis vraiment contente d'avoir vécu. Et je pense qu'il m'a marqué et appris énormément, oui.
Ouais, quoi qu'il en soit,
Comme vivre en Russie, d'ailleurs.
ouais.
Pardon.
Non, il n'y a pas de problème. Quoi qu'il en soit, enfin que ce soit pour refaire sa vie ou juste pour y aller, vos nouvelles, en tout cas, donnent envie de partir là-bas.
Bah, écoutez, si ça peut donner cette envie-là, c'est le but, donc enfin l'un des buts. Donc,
Maintenant
c'est bien.
que Ville chinoise est achevée, même s'il a encore donc là toute sa vie dans nos librairies à faire, pour vous, quels sont vos projets littéraires ou pas?
Alors, bon, j'ai plusieurs choses en projet, mais je manque de temps. Et en même temps, comme je suis superstitieuse, enfin pas superstitieuse, mais j'ai pas envie d'avoir l'air ridicule en vous disant j'écris un roman sur ça, etc. Et puis que finalement ce roman soit jamais publié, même si vous n'êtes pas nombreux et si je suis pas connue, j'aurais l'air un peu idiote. Donc on sait jamais ce que, enfin disons que ce que je fais pour l'instant n'est pas achevé, donc je pense pas pouvoir en parler parce que ça n'a pas de réalité autre que dans mon imagination et dans mon ordinateur. Donc voilà, mais effectivement, j'ai des projets, plutôt des romans en ce moment. J'ai plusieurs idées, je travaille dessus. Ça avance pas très vite, donc bon, il va falloir attendre si ça intéresse quelqu'un.
Bah, nous,
Voilà.
on sera patients et on sera ravis de vous retrouver. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions.
Mais merci de m'avoir reçu. Et puis, je vais en profiter pour, je vais pas faire une longue liste de remerciements, mais bon, pour remercier la librairie Mola dans son ensemble, Gallimard évidemment, mon éditeur Roger Grenier qui est un grand novelliste et j'ai beaucoup de chance de tomber sur lui. Et puis aussi, comme c'est la première présentation que je fais en France, Je ne sais pas si ça s'est bien passé, mais j'ai été préparée à ça par une série de présentations dans les Alliances françaises en Chine de mon premier livre. Et donc, je remercie le réseau des Alliances françaises de m'avoir donné cette possibilité. Voilà.
Mais ils auront le message. Voilà. Mais merci à vous, en tout cas.
Et pour ne pas oublier, je remercie tous les gens qui sont là, qui ont bien voulu m'écouter, venir, et certains que je connaissais, mais que je n'avais pas vu depuis des années. Donc c'est toujours extrêmement agréable.